Pour cette troisième partie, Frédéric Malquier, on va, comme c'est la coutume dans cette émission, parler un petit peu plus de vous, de votre ressenti, d'une certaine subjectivité d'ailleurs, pourquoi pas. Mais il y a quand même encore un certain nombre de choses que j'aimerais, alors dans votre fonction, dans votre profession, pour lesquelles j'aimerais avoir votre avis, et notamment un certain nombre de lois un petit peu technocratiques récentes qui limitent, voire qui parfois ligote ou bâillonne la liberté de construire et la possibilité de construire aujourd'hui. Par exemple, cette fameuse loi ZAN, Z-A-N, zéro artificialisation des sols. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'agent immobilier ?
Alors, il faut pas oublier que nous sommes en deuxième ligne sur ce genre d'opération, la ZAN, et on est concerné dans un deuxième temps parce que ce sont les promoteurs qui sont les premiers impactés.
Oui, bien sûr,
bien évidemment. Et on a de plus en plus, vous en parliez, Jean-Claude, de la technocratie et des dispositions de plus en plus importantes. À titre de parallèle, de comparaison, on avait un contrat de syndic il y a 20 ans qui faisait 5 pages, et aujourd'hui il en fait 25, avec des annexes en plus que je ne compte pas.
C'est ce qu'on appelle la simplification administrative.
La fameuse simplification administrative, voilà. Eh bien, on la cherche tous et on ne l'a pas encore trouvée. Donc si quelqu'un de nos auditeurs l'a, eh bien, je l'invite à vous contacter. Plus sérieusement, au niveau de la ZAN, oui, non, c'est très complexe parce que, comme je l'ai expliqué dans mes propos préalables et antérieurs, on a de plus en plus de mal à avoir des stocks, on a de plus en plus de mal à loger les gens, et aujourd'hui, ce premier poste de dépenses des Français peut venir à bloquer, et une loi comme la ZAN, voilà, qui oblige à des contraintes écologiques et ne permettant pas de construire dans tous les coins des villes, aujourd'hui est mal compris des promoteurs, mal compris des acheteurs qui voudraient investir. Ça peut passer dans des villes de taille plus importante, hein, des capitales, des métropoles, des grandes agglomérations. Mais par contre, en milieu catalan ou narbonnais, c'est un peu plus difficile à accepter.
Oui, alors quand on va raconter aux gens qui viennent s'installer ici, venus du Nord par exemple, qu'il faut redensifier la ville, ce qui signifie construire pratiquement uniquement des appartements et non plus des villas, ils comprennent pas, je suppose.
Non, ils comprennent pas parce que ils viennent dans le sud pour chercher plus d'espace et plus de gains de surface habitable. Et là, on se retrouve à peut-être construire sur des petites escalopes, comme on peut l'appeler dans le métier, des escalopes foncières, sur des petits terrains, des tours immenses. Le dernier exemple en date, c'est une œuvre qui est magnifique, mais qui est très particulière. C'est l'Arbre Blanc à Montpellier, sur le rond-point de la fac de droit de Richter. Et ce terrain est minuscule. Et là, vous avez vu monter une des folies de Montpellier qui est magnifique, mais qui est toute petite et qui contient, pour la plupart, je pense, plus de petits appartements que de grands.
Oui, voilà. Ce qui, bon, peut plaire à certains, mais qui ne plaît sans doute pas à tout le monde, notamment, encore une fois, quand on habite dans le sud.
C'est ça.
Vous le ressentez, j'imagine.
On le ressent tout à fait.
Et est-ce que, du côté de vos clients, vous avez des remarques, même parfois un petit peu, je dirais pas agressives, mais enfin agacées ?
On le constate pas forcément, mais nous, on le voit de manière indirecte. C'est-à-dire que je me souviens, il y a une dizaine d'années, la ville était vraiment l'Eldorado immobilier. Les gens venaient en ville et ils voulaient souhaiter investir en ville. Depuis quelques temps, on le voit, il y a les agglomérations qui se sont créées, l'agglomération Perpignan-Méditerranée, l'agglomération de Narbonne, pour citer les deux plus grosses du coin. Et ces agglomérations se sont énormément développées, bénéficient de services supplémentaires. Et donc, la contrepartie un petit peu de la loi ZAN, c'est que les gens n'hésitent pas à partir maintenant à l'extérieur des grandes villes, que ce soit Narbonne ou Perpignan, pour rester vraiment local. Et les gens, la clientèle, souhaitent investir dans ces communes-là où il y avait peu d'intérêt auparavant. Et aujourd'hui, il y a véritablement un intérêt parce que les quartiers sont développés, des lotissements sont développés, et il y a véritablement une offre de services avec des bus qui relient à la ville principale par l'agglomération, une facilité d'accéder à la plage ou à la montagne, etc., etc.
Oui, mais évidemment, ça pose à l'inverse le problème de la mobilité. Il faut forcément de bons services publics de transport, ce qui n'est pas le cas partout non plus.
Alors, ce n'est pas effectivement le cas partout, mais on a la chance d'avoir...
Enfin, c'est une tendance.
C'est une tendance au renforcement de ces systèmes-là. Et on le voit, on a des communautés d'agglomération qui sont en train de devenir de plus en plus grosses. Ça devient des gros mastodontes. Et ces mastodontes-là sont capables aujourd'hui, et des fois, viennent à supplanter les compétences des villes ou des départements et prennent de plus en plus d'importance pour le bien-être des personnes habitant ces agglomérations.
Oui, mais ça, c'est la tendance de ce qu'on appelle les agglomérations. En fait, elles ont été faites pour ça. Il semblerait que ça fonctionne de ce point de vue-là.
Ça fonctionne. En termes immobiliers, je confirme que ça fonctionne. On a véritablement de la demande pour ça. Et des nœuds de communication ont été créés permettant de relier rapidement ces villes de la périphérie perpignanaise ou narbonnaise au centre même.
Alors justement, parlant de Perpignan, Narbonne, Béziers et Montpellier... Pouvez-vous nous donner, Frédéric Malquier, une petite fourchette comparative de prix ? Même s'il est difficile d'acheter des logements, il faut quand même que les auditeurs sachent combien ça coûte. Les prix moyens aujourd'hui, comparativement déjà Béziers, on va dire Perpignan et Narbonne, qui sont de villes voisines et qui sont en plein dans votre zone.
Alors, cher Jean-Claude, c'est très difficile de donner comme ça un prix public au mètre carré. Mais ce qu'on peut dégager, c'est les tendances. On avait, pour l'historique, une ville de Béziers, qui est une magnifique ville avec le canal du Midi, avec notre ami Pierre-Paul Riquet, sous Louis XIV, et qui a développé cette ville-là, et qui a fait qu'aujourd'hui, c'est une destination qui plaît énormément. Béziers a souffert pendant de nombreuses années et était très décotée. Contrairement à Narbonne, qui par contre a, par exemple, les revenus CSP les plus importants du Languedoc-Roussillon et continue d'attirer autant, notamment au niveau des retraités, avec un dernier classement du Figaro, je crois, qui place Narbonne dans le top 10 des villes les plus attractives pour les retraités. Donc on a une ville de Narbonne qui est très cotée, une ville de Béziers qui remonte énormément. On était aux alentours à Béziers des 800-900 euros le mètre carré, ce qui paraît vraiment ridiculement bas pour des logements tout à fait convenables en normes de décence totale en plein centre de Béziers, et qui ont remonté pour arriver facilement dans les 1500-1600 euros le mètre carré. Narbonne tour autour des 2000 euros le mètre carré, et quand Perpignan, là pareil, était une vieille endormie qui se réveille. Perpignan, une ville que j'adore, et qui, au bord de la tête, avec les vues sur le Canigou notamment, a aussi subi depuis quelques années les aléas des baisses immobilières. Et depuis peu, par une politique de la ville qui est plus importante, avec un permis de louer qui a été installé, qui a été instauré également, et la FNAIM a plaidé pour ça, a permis d'améliorer l'habitat, notamment du centre. Et Perpignan, pareil, se situe aux alentours de 1600-1700 euros le mètre carré. Il y a encore du travail à faire. Il y a des secteurs qui sont mieux cotés, bien évidemment, notamment le cours du Palais des Congrès, le cours Palmarol, le cours Wilson. Et après, Montpellier reste la capitale.
La capitale est beaucoup plus chère.
Loyers sont beaucoup plus chers, les prix au mètre carré sont beaucoup plus chers. Il y a eu une grosse tendance. Montpellier s'est énormément développé dans le neuf. Il y a notamment un quartier à Richter qui s'est développé et qui, à terme, va contenir 18 000 logements occupés par deux personnes. Ça fait 36 000. C'est juste colossal.
C'est déjà une ville.
C'est une ville. Une ville dans la ville. Une ville dans une ville comme Montpellier, la capitale régionale. Et là, à Montpellier, on va plutôt situer aux alentours de 2500 euros le mètre carré médian, avec des pointes dans le neuf qui pourront aller à 4000, 5000 euros le mètre carré.
Ah oui, quand même. On peut atteindre ça à Montpellier.
Tout à fait.
Oui, bon. Et si j'ai bien compris, Narbonne est encore un peu plus cher que Perpignan aujourd'hui.
C'est ça. Narbonne a cette demande très soutenue parce qu'on est sur une ville aussi, il faut le rappeler, les auditeurs le savent, une ville de taille moyenne, 60 000 habitants. Perpignan en fait 120 000. Béziers est entre deux. Béziers fait 85 000 personnes, 80-85 000 personnes. Et Montpellier, j'en parle même pas, puisque c'est Montpellier, c'est plus de 250 000 habitants, et avec l'agglomération, plus de 400 000. Donc les gens en Narbonne cherchent plus un cocooning, une ville qui est sécurisée, une ville qui est propre. Et ça, on le ressent énormément dans les demandes, puisque nous, on a la moitié de nos clients acheteurs sont hors département et hors région. Et donc, on arrive à mener des analyses avec notamment le label économique, qui est le label réalisé par la FNAIM et qui permet d'avoir toutes ces statistiques-là.
Voilà. Bon, je pense qu'on a fait un tour d'horizon suffisamment intéressant pour que les auditeurs s'y retrouvent un petit peu. Un dernier mot, on a évoqué, alors vous êtes là d'ailleurs à ce titre, Frédéric Malquier, président de l'AFNAIM. Quand on est président d'une fédération comme ça, on l'est bénévole, j'imagine. Ça prend beaucoup de temps. Comment voyez-vous l'avenir? Je veux dire par là que, est-ce que vous dites, bon, je fais mon temps et puis à un moment je passerai la main, ou peut-être que statutairement c'est obligatoire? Comment ça se passe?
Alors,
Et dans votre esprit notamment.
Nous avons déjà c'est une tradition familiale. Mon père était président de la FNAIM de l'Aude. Mon frère l'a été également. Et moi, j'aime bien les choses un peu plus compliquées. Et je me suis dit, tiens, je vais tenter mon aventure en pays catalan. J'ai d'ailleurs mes 3 enfants qui sont nés là-bas. Je me suis intégré au microcosme catalan le plus possible. C'est pas évident. Et il faut pour ça soutenir l'USAP, c'est un critère important, rugbystique. Et je les salue d'ailleurs puisqu'ils ont fait une magnifique saison avec une match d'accession gagné. Et donc, blague à part, pour la FNAIM, c'est un choix de cœur parce que c'est le premier syndicat français, c'est celui qui a le plus d'entreprises, le plus de représentativité. C'est celui qui est la marque FNAIM est aujourd'hui connue par 78% des Français. On a mené des études là-dessus. Et plus de 8, quasiment 8 Français sur 10 connaissent le label FNAIM, qui est une véritable marque, comme le Caducé va le devenir, et c'est un véritable repère. Et alors, quand j'ai eu la possibilité de prendre la présidence de la FNAIM, après plusieurs années de ma qualité de membre du conseil d'administration, j'ai foncé, soutenu par mes adhérents, les administrateurs, et on a un projet qui a été identifié sur les 6 prochaines années, de 2019 à 2025. Donc 2019, mon premier mandat jusqu'en 2022. 2022, j'ai été réélu par l'intégralité de mon conseil d'administration pour représenter un deuxième mandat jusqu'en 2025. Et là, dans nos objectifs, c'est très clair, de porter la FNAIM encore plus haute que ce qu'elle est, lutter contre ces modèles disruptifs de concurrence qui sont vraiment qui créent ces asymétries qui sont pas acceptables pour moi, et on lutte pour revenir sur les fondamentaux de la profession comme la loi Hoguet le disait, porter nos métiers, puisqu'il y a 13 métiers à l'intérieur de l'immobilier de la FNAIM, des experts comme je l'ai dit, des promoteurs, des syndics, des gestionnaires, etc. Et à partir de là, cette présidence m'a été confiée par mes amis catalans et j'essaie de la porter le plus haut possible jusqu'en 2025. En 2025, je donnerai la chance à un autre administrateur qui voudra se présenter. Mais après, je le confirme, c'est une mission bénévole à 100% qui m'occupe beaucoup de temps. Et d'ailleurs, je tenais à remercier l'intégralité de mon conseil d'administration de me faire confiance, mes adhérents, nos adhérents, qui sont aujourd'hui à 140 agences immobilières dans les Pyrénées-Orientales. Et je tiens également à remercier, pour le temps qui m'est laissé, tous mes collaborateurs de nos sociétés, les agences du Soleil et la société Catane de gestion, de m'avoir permis de libérer ce temps à consacrer à nos adhérents et à la cause immobilière.
Voilà, eh bien c'est là-dessus qu'on va conclure. Merci Frédéric Malquier d'être venu alors justement nous expliquer toutes ces diverses choses et la façon dont vous envisagez une sorte de mission de terminer ce fameux mandat. Notre prochaine invitée, terminons fin juin, mais notre prochaine invitée sera Éric Ménassy, qui est maire de Trèbes et qui est également président de l'Association des maires de l'Aude. Voilà, et nous terminerons la saison en recevant Ludovic Roux, qui lui est un vigneron, membre de la coopération vigneronne donc d'Occitanie. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Merci Frédéric Malquier. Merci. Et à la semaine prochaine.